dire bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés.
Vos marguerites sont un beau livre, mais ce n'est pas une affaire. Et je ne peux m'occuper que de vastes entreprises. Il n'y a pas assez à gagner pour faire les dépenses d'un succès. Si je commençais la librairie, je commettrais peut-être la faute de vous éditer. Mais aujourd'hui, mes commanditaires et mes bailleurs de fonds me couperaient les vivres.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. La concurrence puissante des nouveaux supports électroniques n'est pas sans inquiéter beaucoup de bons esprits quant à la pérennité des livres. Des livres qui se veulent obstinément proposer en papier. Mais heureusement, ceux-ci paraissent, pour l'heure, résister très convenablement, non sans s'adapter par force à de nouvelles conditions de fabrication et de distribution. On peut considérer, sans trop s'avancer, que d'âge en âge, autrefois comme aujourd'hui, les équilibres du monde du livre, les auteurs, les éditeurs, les distributeurs, les libraires et naturellement les lecteurs, disent beaucoup sur la spécificité d'une société, sur les tensions qui la travaillent et sur ses mutations en cours. Je saisis l'occasion de la parution récente d'un beau livre de Robert Darnton pour considérer sous cette lumière, c'est bien le cas de le dire, les décennies qui ont précédé la Révolution française. Robert Darnton, qui est devant moi, est professeur émérite à l'université de Princeton et ancien directeur de la magnifique bibliothèque Widener de Harvard. Dans son ouvrage, il nous invite à un tour de France littéraire parmi le monde du livre à la veille de la Révolution. Il nous propose un regard anthropologique qui tranche avec les pratiques de l'histoire de la littérature telle qu'on l'enseigne d'ordinaire. On voit surgir ainsi, sous sa plume, des questions qui demeurent fort actuelles dans un univers, le nôtre, qui semble pourtant de prime abord tout à fait différent. La question des droits d'auteur, la question des relations entre les écrivains et les éditeurs, la question du piratage auquel Internet apporte de nos jours un puissant renfort, et enfin la question du rôle des libraires dans la vie culturelle d'une nation. Et comme je sais que j'ai beaucoup de libraires parmi nos auditrices et nos auditeurs, c'est à elles et à eux que j'ai le goût de dédier cette émission. Les autres, j'en suis sûr, ne m'en voudront pas.
Le livre que j'ai lu, je n'en sais point l'auteur. Le livre que j'ai lu n'est pas chez le libraire. Je n'en sais point le titre et fus mauvais lecteur. Et si vous le trouvez, il faut parfois se taire. Ne ferme pas trop tôt le livre, les fleurs n'ont pas fini de vivre. À la première page, un chemin dans le bois. À la deuxième page, une source est cachée. À la troisième page, est un indien qui boit. La quatrième page, elle est encore tachée. À la cinquième page, un canot sur la mer. À la sixième page, on l'attend à la côte. Au bas de la septième, on dit que la mer perd. À la page d'après, la mer est aussi haute. Ne ferme pas trop tôt le livre. Les fleurs n'ont pas fini de vivre. Page 20, page 30, un vol de corbijoux traverse tout le livre et ça va sur les plaines pour manger des bleuets qui poussent n'importe où. Je n'en ai pas mangé depuis 500 semaines. À la centième page, il pleut sur l'île au foin. à la suivante, un homme en marche dans la neige. Pour changer de saison, il marche un peu plus loin, mais la trace du loup est perdue et le piège. Ne ferme pas trop tôt le livre, les fleurs n'ont pas fini de vivre. Pages mille et cent mille, on est dans du bois vert. Au matin de mon conte, à son premier chapitre, je m'en vais te laisser avec le livre ouvert, le cœur et l'œil au large et le front sur ta vitre. Ne ferme pas trop tôt le livre.
Robert Danton, bonjour.
Bonjour.
Sur des paroles de Gilles Vigneault, Catherine Sauvage chantait en 1966 le livre. Ne nous étonnez pas que j'ai choisi cette chanson. Ne fermez pas le livre, nous allons le laisser ouvert pendant une heure. Et puis il passe à un moment donné cet homme qui marche dans la neige. J'ai trouvé que c'était assez votre personnage favori, celui avec lequel vous voyagez pour nous dans cette France du XVIIIe siècle, d'avant la Révolution française, Robert Danton, ce Jean-François Fabergé qui sert d'intermédiaire entre l'univers de la librairie que vous nous faites explorer et nous-mêmes. Alors, comment l'avez-vous trouvé ? Vous avez passé beaucoup de temps dans cet ensemble magnifique d'archives de la Société typographique de Neuchâtel. Vous y avez passé 14 étés et un hiver. C'est impressionnant. Et voilà ce que vous nous rapportez. Quelle est votre moisson ?
Je suis arrivé en 1965. Donc, j'achetais des fiches, j'épluchais des dossiers, j'entassais les fiches, je les mettais dans des boîtes à chaussures, et finalement, j'essayais d'en faire de l'histoire.
Pourquoi est-ce que c'est un trésor, ce magnifique ensemble d'archives ?
Eh bien, c'est le rêve d'un historien. Vous êtes historien, vous pouvez l'apprécier, n'est-ce pas ?
Oui, il m'arrive de rêver aussi.
Je suis arrivé à Neuchâtel en cherchant Jacques-Pierre Brissot, qui allait devenir le chef des Girondins pendant la Révolution. Et lui s'intéressait beaucoup aux Américains à Paris. À cette époque-là, j'étais étudiant à Oxford, moi, Américain. Et les rapports entre la France et la Nouvelle République des États-Unis me fascinaient. Donc, j'étudiais Brissot, qui a fondé une société gallo-américaine en 1788. Juste à la veille de la Révolution, et j'ai trouvé un livre où on indiquait qu'il y avait peut-être des lettres de Brissot à la bibliothèque municipale de Neuchâtel.
Ça a été le déclic initial et essentiel, en somme.
Exactement. Et je me suis dit, c'est le prix d'un timbre de poste, pourquoi pas ? J'écris une lettre, je reçois une réponse très aimable du directeur de la bibliothèque, Éric Berthou, qui me dit, oui, nous avons 119 lettres de Brissot et voici une photocopie d'une de ces lettres. Et la photocopie était merveilleuse. Elle suffisait à elle seule à repenser toute la carrière de Brissot.
D'où les 14 étés à Neuchâtel et l'hiver que vous y avez passé. Alors, de quoi est fait cet ensemble de Neuchâtel et pourquoi est-ce que ça nous intéresse tellement pour traiter du sujet qui est le nôtre ce matin, la soif de livres au XVIIIe siècle?
Oui, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire une biographie de Brissot, mais je me suis dit, chemin faisant, une fois arrivé à Neuchâtel, que le livre est plus intéressant que Brissot lui-même. Il faut faire de l'histoire du livre, et Neuchâtel, c'est l'endroit où il faut commencer. Pourquoi ? Parce que la France était entouré de maisons d'édition au XVIIIe siècle à cause de la censure, du monopole de la communauté des libraires et des imprimeurs de Paris et des inspecteurs de la librairie qui étaient parfois très sévères.
Une sorte de croissant fertile autour de la France.
Exactement. Donc, il faut penser, il y avait au moins une trentaine de maisons d'édition qui fournissaient la France avec les lumières, puisque à peu près toutes les lumières ont été imprimées à Amsterdam, à Bruxelles, à Genève, mais surtout des livres piratés. Et c'était une grande industrie parce que à la fin du XVIIe siècle, il y avait une guerre commerciale entre les grands libraires éditeurs de Paris et ceux de province. Lyon, notamment, était important depuis le XVIe siècle, mais l'édition provinciale a été anéantie à la fin du XVIIe siècle. Donc, que faisaient les provinciaux ? Ils s'approvisionnaient chez l'étranger. Et les livres piratés coûtaient les deux tiers des livres de Paris. Il y avait donc une alliance naturelle entre les libraires de province et les éditeurs à l'étranger.
Il y a encore parfois l'impression, vous ne le répéterez pas, Robert Danton, qu'il existe en France toujours une certaine opposition entre la province et Paris.
C'est possible. J'ai beaucoup de sympathie pour des deux côtés, n'est-ce pas ? Mais ce qui me fascine au XVIIIe siècle, c'est la librairie en province. Paris représentait à peu près 3% de la population et souvent on étudie le 18e français à travers l'histoire de Paris, mais en fait la province était le marché le plus important pour le livre.
Alors vous avez choisi votre homme que vous nous faites accompagner sur son cheval à travers la France entière, dans la neige, dans la boue, un peu partout. C'est ce Jean-François Favergé qu'il convient que vous nous présentiez. J'ai l'impression que vous avez acquis pour lui une sorte d'amitié, une dilection particulière.
Oui, je l'aime beaucoup, j'avoue. J'ai trouvé son carnet de voyage dans les manuscrits de Neuchâtel. Donc, je devrais expliquer de toutes ces maisons d'édition. Tous les archives ont disparu. Il n'y a que la Société typographique de Neuchâtel dont il existe des archives.
Un trésor.
Mais quelles archives ? 50 000 lettres de tout le monde qui vivaient du livre. Depuis les fabricants d'encre, de papier, les ouvriers à l'atelier, jusqu'aux libraires, les auteurs également. Eh bien, la Société typographique a décidé d'envoyer un commis voyageur 1778 pour faire un tour de France. Ça s'appelait à l'époque un tour de France à cheval pendant 5 mois. Il a traversé les deux tiers de la France. Et
on est entre juillet et novembre 1778.
Oui, exactement. Donc un beau moment, très intéressant. Et il sondait le marché, il vendait des livres, il espionnait, il essayait de connaître la demande littéraire. Et son carnet de voyage, ses lettres qui existent également avec les réponses, nous disent beaucoup sur la demande littéraire et sur la littérature diffusé réellement en France.
Donc on le voit sonder la personnalité des libraires, en fait.
Exactement, puisqu'il fallait les connaître. C'était tout un monde très humain, très balzacien, si j'ose dire, et certains libraires étaient solides. On pouvait leur faire confiance. Le mot confiance revient toujours.
Et les bonnes librairies, les médiocres et puis les pas bonnes.
Il y avait toute une gamme de personnalités et de commerce et surtout des rivalités, des luttes sauvages entre les libraires. Les grands écrasaient les petits, mais parfois les petits arrivaient à faire des coups dans le marché, notamment en spéculant sur les livres dits philosophiques.
Eh bien, nous allons en parler, mais auparavant, puisque vous évoquez Balzac.
Oui.
Je vais vous donner à entendre, c'est une période ultérieure bien sûr, mais qui est encore marquée par le souvenir de ce temps dont vous rendez compte dans votre livre, Robert Danton. C'est un extrait du roman L'illustre Gaudissart, paru en 1833, qui est lu par Yves Elliot et qui peint un commis voyageur, c'est-à-dire une sorte de réplique de votre cher Favergé.
Le commis voyageur, personnage inconnu dans l'Antiquité, n'est-il pas une des plus curieuses figures créées par les mœurs de l'époque actuelle ?
Excellent mime, il sait prendre tour à tour le sourire de l'affection, du contentement, de l'obligeance, et le quitter pour revenir à son vrai caractère. Il est tenu d'être observateur, sous peine de renoncer à son métier. Quant à son activité, n'est-ce pas la moindre qualité de cette machine humaine ? Ni le Milan fondant sur sa proie, ni le cerf, inventant de nouveaux détours pour passer sous les chiens et dépister les chasseurs, ni les chiens subodorant le gibier ne peuvent être comparés à la rapidité de son vol quand il soupçonne une commission. À l'habileté du croc en jambe qu'il donne à son rival pour le devancer, à l'art avec lequel il sent, il flaire et découvre un placement de marchandises.
Vous confirmez qu'il y a un écho, une sorte de similitude ou une ressemblance entre votre cher commis-voyageur et celui de Balzac ?
D'abord, il faut expliquer que c'est un commis-voyageur à cheval et il était calviniste. Il venait de Neuchâtel, un pays calviniste. Il s'aventurait dans le monde des catholiques. Pour lui, c'était l'étranger, un peu suspect, malgré les... une certaine ressemblance de la langue. Il s'arrêtait chez les pasteurs protestants partout. Donc, c'est-à-dire, il y avait tout un réseau de pasteurs calvinistes en France. Les Huguenots étaient éparpillés partout. Fabergé est parti avec la liste des pasteurs importants, notamment autour de Nîmes et de La Rochelle. Et il est même allé écouter prêcher les grands pasteurs dans ce qu'on appelait le désert, c'est-à-dire dehors, et il se sentait pas tout à fait à son aise dans ce monde catholique. Donc c'est un regard calviniste, désabusé, pas trop amusé, mais très intelligent. Il voyage donc un peu partout et après Marseille, il est tout à fait dans un autre monde, mais il étudie les rivalités entre les libraires et il essaie de savoir à quel point on pouvait leur faire confiance.
Donc on peut, à titre de parenthèse, signaler que c'est un voyage très inconfortable. Alors, les descriptions qu'il fait des auberges en particulier sont assez sinistres. Celles du Midi, en Languedoc, les hôtels sont tout à fait exécrables. En Provence, ils sont, le croirait-on, encore moins bons. Excepté dans les grandes villes, ils sont froids, humides, noirs, tristes et sales. Les hôtes sont désobligeants et rapaces. Les domestiques disgracieux, malpropres et paresseux. On retrouve d'ailleurs les descriptions que Arthur Young, qui était un agronome et un agriculteur britannique, propose dans ses fameux voyages en France, à peu près au même moment.
Pourtant, Fabergé, c'est un jeune homme, il a 28 ans, il ne se plaint pas beaucoup, mais les conditions étaient plutôt difficiles. Beaucoup de poux, de boue, de mauvaise nourriture, mais il s'occupait surtout de son cheval. Et il a pris une certaine affection pour le cheval, puisque passé 5 mois à cheval, quand même, il y a un lien entre l'homme et l'animal. Et le cheval, au début, ça allait très bien. On a traversé le Jura, ce qui était assez difficile à cette époque-là. On descend la vallée du Rhône, très bien. Il faisait très chaud. Donc, il a dû quitter son redingote. Il suait beaucoup. Il changeait du linge très... pas très souvent.
Vous nous dites qu'il sentait mauvais. Il y a de l'odeur qui surgit de votre, oui, de votre livre.
Mais après Toulouse, il commençait à pleuvoir. Il pleuvait énormément, il y avait beaucoup de boue, le cheval tombe plusieurs fois par jour. Finalement, il a dû marcher, le cheval avait mal aux jambes et il a dû le vendre à Poitiers. et il quittait le cheval avec beaucoup de regret. Donc tout un discours sur le cheval, si vous voulez, plutôt que sur les auberges.
C'est ce qui donne, Robert Danton, à votre livre toute sa saveur, tout son prix, c'est que cet homme-là, nous voyageons avec lui. Et avec lui, nous découvrons tout un univers, celui des libraires, qui nous renseigne non seulement sur la profession, mais aussi sur la circulation de la littérature, des idées dans cette période pré-révolutionnaire. On a beaucoup fait d'histoire littéraire. C'est une forme d'histoire anthropologique, je le disais, différente. Vous nous faites pénétrer dans un monde qui était relativement méconnu. Alors, ce qui reste très difficile à connaître, c'est la manière dont les gens lisaient.
Ah oui. Hélas, la lecture m'échappe. Je ne peux pas vous dire ce qui se passait dans les têtes des lecteurs, mais au moins je sais les situer sociologiquement, pour ainsi dire, et je connais la demande. Donc je peux répondre à la grande question, que lisaient les Français ? Ça, oui. Mais finalement, quel était l'effet de ces lectures, hein ? Là, je n'ose pas trop l'affirmer. J'entrevois des éléments importants dans la création d'une certaine atmosphère contestataire et même révolutionnaire, mais je ne peux pas le prouver.
Alors, un des nombreux intérêts de ce voyage que nous faisons avec Fabergé et avec vous, c'est de voir comment s'organisent, c'est ce que vous nous disiez il y a un instant, les relations entre l'étranger et la France du point de vue de l'histoire de la librairie.
Oui.
Et je vais vous faire entendre une lettre de Diderot à Voltaire que vous pourrez nous commenter, qui date de 1762, à propos de l'impression de l'encyclopédie. Vous avez donné un livre très précieux également sur l'encyclopédie et son rayonnement, son élaboration, son rayonnement. C'est une lecture de François Chaumette dans l'émission Soirée de Paris, le 8 mai 1960.
Non, très cher et illustre frère. Nous n'irons ni à Berlin, ni à Pétersbourg achever l'encyclopédie. Et la raison, c'est qu'au moment où je vous parle, on l'imprime ici, et que j'en ai des preuves sous mes yeux. Mais chut. Assurément, c'est un énorme soufflet pour mes ennemis que la proposition de l'impératrice de Russie. Mais croyez-vous que ce soit le premier de cette espèce que les maroufles aient reçu ? Oh que non. Il y a plus de 2 ans que ce roi de Prusse qui pense comme nous, qui pense aux petites choses, en exécutant de grandes, leur en avait appliqué un tout pareil. Ne croyez pas que le péril que je cours en travaillant au milieu des barbares me rende pusillanime. Notre devise est « sans quartier pour les superstitieux, pour les fanatiques, pour les ignorants, pour les fous, pour les méchants et pour les tyrans ». Et j'espère que vous le reconnaîtrez en plus d'un endroit. Est-ce qu'on s'appelle philosophe pour rien ?
Alors la Prusse, la Russie et Paris, quel commentaire nous proposeriez-vous, Robert Danton, sur cette lettre de Diderot à Voltaire ?
Eh bien, vous savez que le roi de Prusse était le souverain de Neuchâtel. Depuis 1707, Neuchâtel était sous la souveraineté du roi de Prusse. On peut dire que les éditeurs travaillaient pour le roi de Prusse, pour ainsi dire. Et il travaillait en toute liberté. Bon, il y avait quelques problèmes locaux, mais bref, ils imprimaient tout ce qui se vendait en France. Et parmi ces livres-là, il y avait des contrefaçons et des livres très défendus. Comment les faire passer en France ? C'est le sujet de Diderot et de tout le monde à cette époque-là.
La contrebande.
Eh bien, on utilisait souvent, au XVIIIe siècle, chez les éditeurs et les libraires, un autre mot.
Ce
n'était pas la contrebande, c'était l'assurance. Et Fabergé, quand il s'est arrêté à Pontarlier, au début de son voyage, parlait avec des assureurs, notamment le libraire Fèvre, qui, pour une certaine somme, assurait le transport des livres de la Suisse jusqu'aux entrepôts cachés en France. Et si jamais les contrebandiers étaient arrêtés par la ferme générale qui faisait la police des frontières, l'assureur remboursait la valeur des livres et les contrebandiers qui étaient des paysans, qui transportaient les livres sur le dos dans des paquets qui pesaient 60 livres à peu près 30 kilos, jusqu'à 40 kilos, s'ils étaient saisis, ils risquaient d'être condamnés, marqués par un fer rouge à l'épaule gauche avec la lettre G pour galérien et envoyé dans les galères près de Toulon pendant 9 ans.
Il fallait que l'appât du gain fût impérieux pour qu'il prise ses risques.
Oui, mais c'était de pauvres paysans. Hein. Ils étaient payés à peu près 30 sous pour un voyage. Et c'était pénible, surtout l'hiver. Ils demandaient toujours du schnapps dans une auberge suisse et... S'il y avait beaucoup de neige, ils exigeaient que le paquet de livres pesait moins.
Il était difficile pour les douaniers, d'ailleurs, quand même de les attraper. Je vois que Malesherbes, le grand protecteur des encyclopédistes à la cour et au pouvoir, avait fait la tournée des terres frontalières l'année même du voyage de votre Fabergé en 1778, qu'il écrivait 200 exemplaires d'une brochure défendue ne sont pas un gros volume. Il me semble bien aisé de les introduire par toutes les voitures qui traversent le pays avec des marchandises de tout genre, dans le foin, partout.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Malesherbes connaissait très bien le directeur de la Société typographique de Neuchâtel. Ils ont dîné ensemble quand il est allé à Neuchâtel. Osterwald, le directeur, lui indiquait les chemins qu'il fallait suivre, etc., pour... apprécier les montagnes et aussi connaître le paysage.
Mais je ne pense pas que Osterwald lui donnait des informations sur le passage des contrebandiers.
Je pense que Malesherbes était très bien informé et ce qu'il cherchait à stopper, c'était surtout les livres dits philosophiques, la pornographie, les libelles notamment, les libelles contre le roi, les maîtresses du roi, etc.
Immense succès, par exemple, des livres contre Madame du Barry.
Oui,
des best-sellers de l'époque. Oui. Mais je vois qu'on pratique ce qu'on appelle le mariage, c'est-à-dire qu'on intercale des pages de ces livres dits philosophiques avec la Bible, par exemple. On intercale Fanny Hill, Femme de plaisir, qui est un grand best-seller pornographique de l'époque, avec la Bible. C'est un mariage qui est assez honteux du point de vue de l'Église catholique.
Eh bien, c'est très clair dans les lettres, dans les commandes. Nous allons marier la fille de joie, Fanny Hill, avec la Bible. Donc on cache les feuilles, mais ça c'est une autre sorte de contrebande. Il y en avait deux, donc l'assurance avec des paysans contrebandiers qui traversaient les montagnes, et une autre sorte où on cachait les livres interdits dans les feuilles des livres piratés, mais plutôt innocents. Donc c'était une façon de greffer le commerce illicite dans le commerce toléré.
Vous nous évoquez Pontarlier. Voyageons un peu avec Fabergé, parce qu'il y a des grandes différences. En Franche-Comté, Besançon, par exemple, on a toujours plaisir à saluer. Besançon est un lieu majeur de ce marché du livre et très, très positif. Aujourd'hui, il y a une librairie qui s'appelle Les Sandales d'Empédocle, mais elle n'existait pas à l'époque.
Non, mais il y avait la librairie de Charmey, le libraire le plus important, aussi Les Paniers, autre libraire très actif. Et Besançon m'intéresse beaucoup puisque c'était une ville de parlement, plein d'avocats, de magistrats, etc. Donc de lecteurs, autant de lecteurs, mais aussi une ville de garnison. Et ce que je ne savais pas, c'est que les militaires étaient de très grands lecteurs. Donc Charmey, le libraire, approvisionnait les officiers dans les casernes à Besançon. Et le livre se défendait très bien à Besançon. Pourtant, on a dû envoyer pas mal de soldats pour faire la guerre d'Amérique. Et à cause de cela, Les Paniers dit, Louis XVI a décidé d'envoyer beaucoup de mes clients en Amérique et je ne peux pas payer ma facture.
Ah oui, c'était un chagrin, du coup. Oui. Mais on voit vos libraires, à l'époque, contrairement à aujourd'hui, sont très largement des distributeurs aussi. Enfin, il y a des cas aujourd'hui, mais assez rares, de libraires qui diffusent les livres alentour.
Oui, parfois, les libraires de province faisaient des voyages avec des chariots, des chevaux, etc., pour vendre des livres dans des petites villes, surtout pendant les marchés. Aussi, ils vendaient des livres à des colporteurs, de vrais colporteurs qui se déplaçaient et qui les vendaient un peu partout. Donc, il y avait tout un système capillaire de distribution qui me fascine. Parce qu'il y a des lettres de ces colporteurs qui savaient mal écrire. Pour les comprendre, il faut lire à haute voix et écouter au son. Et ils n'avaient pas de domicile fixe. Ils vivaient dans les auberges, sur les chemins, et ils achetaient des livres avec des billets à ordre qu'ils devaient payer dans une certaine auberge, mais souvent, ils n'arrivaient pas. Donc, on appelait cela des domiciles en l'air. Donc, toute une spéculation de la part de ces petits gens du livre, des colporteurs, qui ont été des intermédiaires importants.
Puisque vous les aimez beaucoup, ces colporteurs, Robert Danton, je vous offre une chanson intitulée « Le colporteur ». Ce n'est pas un colporteur de livres, vous allez voir, mais c'est bien la même profession. Une chanson interprétée par André Claveau, c'est assez kitsch, en 1955, sur des paroles et une musique de Claude et Maurice Capez, le colporteur.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
C'est le petit colporteur qui colporte, qui colporte. C'est le petit colporteur qui colporte le bonheur. Sa borlotte voit sa hotte qui cahote quand il trotte hardiment. Les bibelots, les douceurs qu'il apporte, font qu'il gagne bien des cœurs, notre petit colporteur. Des flots de rubans, de dentelles, des parfums et des falbalas, tous les trésors, Ninon la belle, tous les bonheurs, je les ai là. C'est le petit colporteur qui colporte, qui colporte. C'est le petit colporteur qui colporte le bonheur. Sa prolotte voit sa hotte qui cahote quand il trotte gentiment. Il cueille les jolies fleurs qu'il emporte, prends bien garde au colporteur, car il volera ton cœur. Quand Ninon entr'ouvrit sa porte, il se croyait bien le plus fort, mais pour un baiser qu'il emporte, elle a décidé de son sort. C'est le petit colporteur qui colporte, qui colporte. C'est le petit colporteur qui colporte leur bonheur. Sa prolotte voit sa hotte qui cahote quand il trotte doucement. C'est une fragile fleur qu'il rapporte dans sa hotte avec son cœur. Un tout petit colporteur, un tout petit colporteur, un tout petit colporteur.
C'est beau, il est vrai, ça fait kitsch, mais c'est très amusant. Pourtant, l'époque colporteurs que j'ai connus, ce n'est pas des gens qui colportaient avec un, une bande autour du col, dans les rues, c'est plutôt des marchands forains. Notamment un certain Noël Gilles, dont je parle,
dit la pistole.
Et lui avait un cheval, un chariot, et il vendait des livres dans les marchés, dans les foires, etc. C'était donc un petit homme d'affaires. Et il étalait les livres, il les vendait, toutes sortes de livres. Il en commandait à la société typographique de Neuchâtel.
Toujours elle.
Il voulait anecdote sur Madame du Barry, aussi le christianisme dévoilé du baron d'Holbach. Il ne savait pas les lire. Ses lettres sont griffonnées, ils sont très primitifs, mais ça se vendait comme des petits pains.
D'un côté, le trou de la serrure, et de l'autre, une sorte de matérialisme anticlérical, c'est ça ?
Oui,
l'idolie que vous citez.
Même de athéisme chez le baron d'Holbach, c'est vrai. Il vendait également la pucelle d'Orléans, ça se vendait très bien, de Voltaire, les lettres philosophiques, la vie privée de Louis XV. Donc il était bien fourni de toutes sortes de littérature prohibée.
Parce que la pucelle d'Orléans n'est pas extraordinairement favorable. C'est un moment de déclin, je dirais, pour Jeanne d'Arc au XVIIIe siècle, avant
oui.
qu'elle soit promue, comme nous savons, à gauche et à droite au XIXe.
Non, c'était tout le contraire. Et Voltaire se moquait éperdument de Jeanne d'Arc comme une sorte de paysanne bête et pas très pucelle non plus. Mais ça intéressait beaucoup le public. Le pauvre Noël Gilles a fait faillite. J'ai trouvé son bilan dans les archives de faillite à Paris. Donc on peut faire une sorte de portrait de ces petits gens du livre, aussi les petits libraires et les luttes entre les libraires qui m'intéresse beaucoup puisque ça dévoile l'aspect humain du commerce.
Avec beaucoup de cancaneries, beaucoup de rivalités de toutes sortes, parfois des coups bas.
Oui.
Ça n'existe plus tout ça.
Eh bien, prenons l'exemple de Marseille. À Marseille, il y avait un libraire très important, Jean Mossy. Très entreprenant, il publiait même des livres, ce qui était exceptionnel. Mais à côté de lui, il y avait un certain Caldesègue, un petit homme qui était un clerc dans une librairie pendant 6 ans, et il a fait la cour à la fille d'un tourneur qui avait une dot de 6 000 livres.
Le tourneur, c'était quoi un tourneur ?
Quelqu'un qui fabriquait les tables et des meubles. Et avec cette dot, il a établi une boutique. Il commande des livres à Neuchâtel et un peu partout. Il commande trop de livres. Il n'arrive pas à payer ses lettres de change qui s'entassent. Des problèmes d'échéance de lettres de change. Il est pris par la panique. Il disparaît sur un bateau qu'il amène en Espagne avec 6 gros balles de livres qu'il vend, c'est-à-dire qu'il abandonne sa femme. Le père de la femme reprend la dot, il défend les biens de sa fille. Et Caldesègue se ravise, il se dit, mais quand même elle était belle, elle était bien, je peux reprendre mon commerce. Donc il revient en secret. À Marseille, il se cache, il envoie des lettres à ses créanciers en disant « Je vous paye 15% de la facture si vous me permettez de continuer mon commerce. » Donc toute une négociation, et finalement c'est Mossy le Grand qui intervient du côté des créanciers pour écraser Caldesègue qui disparaît dans les îles. Dont on ne sait pas trop bien ce qu'il est devenu. J'ai souvent trouvé des dossiers où, à la fin, c'est un voisin, un négociant qui écrit « disparu s'est enrôlé dans l'armée, parti pour la guerre d'Amérique, etc. » a laissé les clés sous la porte. Donc j'y vois une sorte de capitalisme sauvage, mais vécu par ces petits gens du livre.
Vous nous faites ressurgir, de fait, et c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent au livre aujourd'hui, vous nous faites ressurgir tout un univers qui était méconnu, Robert Danton, l'univers des libraires au XVIIIe siècle. Je voudrais que maintenant nous en venions à une réflexion sur la manière dont émergent les best-sellers.
Oui.
Parce que ces libraires ont un rôle évidemment essentiel. Écoutez donc cet extrait des Confessions de Rousseau. Il raconte la manière dont son roman si célèbre et qui a été un si grand succès, La Nouvelle Héloïse, Julie ou La Nouvelle Héloïse, qui est paru en 1761, comment il a gagné les esprits et les cœurs. C'est un texte qui est lu, vous allez voir très très bien, par Pierre Fresnay, le grand Pierre Fresnay, en 1972.
Quoique la Julie, qui depuis longtemps était sous presse, ne parut point encore à la fin de 1760, elle commençait à faire grand bruit. Madame de Luxembourg en avait parlé à la cour, Madame d'Houtot à Paris. Cette dernière avait même obtenu de moi pour Saint-Lambert la permission de la faire lire en manuscrit au roi de Pologne qui en avait été enchanté. Duclos, à qui je l'avais aussi fait lire, en avait parlé à l'Académie. Tout Paris était dans l'impatience de voir ce roman. Les libraires de la rue Saint-Jacques et celui du Palais-Royal étaient assiégés de gens qui en demandaient des nouvelles. Il parut enfin. Et son succès contre l'ordinaire répondit à l'empressement avec lequel il avait été attendu. Madame la Dauphine, qui l'avait lu des premières, en parla à Monsieur de Luxembourg comme d'un ouvrage ravissant. Les sentiments furent partagés chez les gens de lettres. Mais dans le monde, il n'y eut qu'un avis, et les femmes surtout s'enivraient et du livre et de l'auteur, au point qu'il y en avait peu, même dans les hauts rangs, dont je n'eusse fait la conquête si je l'avais entrepris. Ce qui me rendit les femmes si favorables fut la persuasion où elles furent que j'avais écrit ma propre histoire, et que j'étais moi-même le héros de ce roman. Tout le monde était persuadé qu'on ne pouvait exprimer si vivement des sentiments qu'on n'aurait point éprouvés, ni peindre ainsi les transports de l'amour que d'après son propre cœur. En cela, l'on avait raison. Et il est certain que j'écrivis ce roman dans les plus brûlantes extases. Mais on se trompait en pensant qu'il avait fallu des objets réels pour les produire. On était loin de concevoir à quel point je puis m'enflammer pour des êtres imaginaires. Sans quelques réminiscences de jeunesse et Madame d'Houtot, les amours que j'ai sentis et décrits n'auraient été qu'avec des sylphides. Je ne voulus ni confirmer ni détruire une erreur qui m'était avantageuse. Les rigoristes disent que j'aurais dû déclarer la vérité tout rondement. Pour moi, je ne vois pas ce qui m'y pouvait obliger. Et je crois qu'il y aurait eu plus de bêtises que de franchises à cette déclaration faite sans nécessité.
Il est vrai que La Nouvelle Héloïse était un best-seller incroyable, un très très grand succès. Et d'ailleurs, j'ai essayé de mesurer les succès, les meilleures ventes à la veille de la Révolution. Donc je raconte le voyage de Fabergé pour, si possible, amuser le lecteur et faire une sorte de fil conducteur, une narration intéressante, mais mon but, c'est quand même de cerner la demande littéraire.
Vous nous proposez un classement entre quatre catégories d'ouvrages. La littérature à scandale, les œuvres qui sont empreintes, dites-vous, de l'esprit des Lumières, les œuvres didactiques ou utilitaires, on en voit bien l'équivalent aujourd'hui,
oui.
Et puis des œuvres de fiction légères, souvent drôles et éventuellement érotiques.
Oui. Exactement. Donc, j'ai étudié 1145 titres. J'ai une liste des best-sellers. Ça vaut ce que ça vaut. Mais même aujourd'hui, les listes des best-sellers sont assez douteuses, n'est-ce pas?
Ah bon, si vous le dites.
Mais j'ai beaucoup étudié les lettres des libraires. Donc, je m'efforce d'étudier la demande vue à travers les lettres des libraires et aussi vue à travers les statistiques. Je pense que les statistiques sont assez solides, mais il faut faire l'autocritique. Il y a des problèmes de méthodologie, mais si je regarde la liste des best-sellers, ce qui est frappant, c'est la variété des œuvres. à la tête de la liste, on trouve Anecdote sur Madame la Comtesse du Barry, un best-seller extraordinaire, drôle, méchant. Ça se lit très bien aujourd'hui même, mais juste après l'an 2440 de Louis-Sébastien Mercier.
Nous avions fait une émission ici sur Mercier.
Il est fascinant, n'est-ce pas? Mercier était, après la mort de Voltaire et de Rousseau en 1778, c'était, je crois, l'écrivain le plus apprécié en France, à côté de l'abbé Raynal, dont l'histoire philosophique figure aussi sur la liste des best-sellers. Il y avait d'autres, La Pucelle d'Orléans, très important, Vie privée de Louis XV,
Chederlos de Laclos aussi, Les liaisons dangereuses.
Oui, se vendait très bien et c'était même contrefait par la STN. Mais à côté de cela, il y avait des romans qui faisaient couler de douces larmes. Les œuvres de Madame Riccaboni. Je ne sais pas, Jean-Noël, si vous connaissez Madame Riccaboni. Elle n'est pas très lue aujourd'hui, je crois.
Je me vanterais si je disais que je la connaissais, mais après vous avoir lu, bien sûr. Et vous l'avez lue, naturellement, vous avez versé des larmes?
Eh bien, je n'ai pas versé trop de larmes. J'ai fait un effort, mais cela ne m'est pas arrivé. Les lettres de Mistress Fanny Butler, c'est un roman épistolaire, imité d'ailleurs de la Nouvelle-Héloïse, mais qui se vendait comme des petits pains. La correspondance de Miss Jenny aussi, les écrits de Dora, les écrits de Baculard d'Arnaud, les épreuves du sentiment, les chagrins de l'inconstance, tout cela était très apprécié en France.
Nos auditrices et nos auditeurs vont se précipiter dans les bibliothèques et vont donner un lustre nouveau à ces auteurs légèrement disparus.
Je pense qu'ils sont assez mal connus, mais ça mérite d'être lu pour entrer un peu dans les goûts du XVIIIe siècle.
Très bien, très bien. Mais alors, vous évoquez les contrefaçons. Il y a d'abord ces éditions à bon marché qui sont intéressantes et qu'on fait dans le croissant fertile dont nous parlions tout à l'heure, aux frontières de la France. On réutilise d'anciennes gravures, souvent un peu usées, et on fait des livres pas chers avec une couverture accroché avec des ficelles sans que ça coûte cher. C'est un peu les livres de poche déjà, non?
On peut le dire, mais les éditeurs en Suisse, à Amsterdam, à Bruxelles, envisageaient un grand public, le début du grand public du 19e siècle. Et les livres contrefaits coûtaient pas cher du tout. Le papier à l'étranger était meilleur marché, la main d'œuvre également. Donc, ils pouvaient vendre des livres à la moitié du prix parisien. Et bien sûr, comme je l'ai dit, les libraires provinciaux détestaient les Parisiens et étaient prêts à acheter des livres chez l'étranger à des prix tout à fait raisonnables. Donc, on voit là les débuts de la démocratisation de l'accès à la culture. Grâce à la piraterie.
Ah, nous y voilà, pour finir, Robert Danton, il faut parler de la piraterie. Vous savez probablement que la parlementaire à Bruxelles, la parlementaire européenne, qui a proposé un rapport sur les droits d'auteur, qui a voulu les limiter au profit de la diffusion de la culture sur Internet, Madame Julia Reda, elle a connu un succès à un moment, et puis ensuite on est revenu au Parlement sur ses propositions. Elle appartient au parti pirate. Dit pirate, ce n'est pas tout à fait un hasard. Mais vous voyez le débat, est-ce qu'il faut accepter cette piraterie pour servir l'appétit culturel des foules, du public, ou au contraire, est-ce qu'il faut respecter les droits d'auteur? Où en est-on à ce moment-là, le siècle de Beaumarchais, dans les droits d'auteur? Les auteurs sont payés en général une seule fois.
Une seule fois. Parfois, ils ont été payés en exemplaires de leur propre livre. Ils gagnaient peu, très peu. On ne pouvait pas vivre de sa plume. Mercier, oui, il a vécu de sa plume, mais il était à peu près un des 17 qui ont su vivre de la littérature. Il a fait un essai là-dessus. Nous sommes 17 qui vivons de notre plume. C'est peu. J'estime qu'il y avait à peu près 3 000 auteurs à la veille de la Révolution. Donc, ils vivotaient dans des conditions difficiles. Bon, ils étaient mal payés, mais les éditeurs tenaient des privilèges. Et à mon avis, le privilège est tout autre chose que le copyright, le droit d'auteur.
Expliquez-nous ça.
Eh bien, le copyright n'existe qu'en Angleterre depuis 1710. En France, il n'y avait, et dans le continent, il n'y avait que des privilèges, c'est-à-dire le droit de vendre exclusivement un livre, mais un droit donné par le roi qui passait par la censure avec des approbations des censeurs. Et le mot privilège vient du latin loi privée. Ce n'est pas une propriété. Et dans les grands édits sur la librairie de 1777, c'est explicite. Le privilège est une grâce fondée en justice, une grâce. Et le mot de grâce se répète dans tous les édits du roi. Une grâce, c'est très loin d'être une propriété. Donc, les contrefacteurs à l'étranger, d'abord, n'étaient pas soumis aux privilèges du roi de France, puisqu'ils habitaient la Suisse. Et deuxièmement, ils ne respectaient pas aucun droit d'auteur, l'idée même n'existait pas à cette époque-là. Il est vrai que Diderot en parle dans ses lettres sur la librairie, mais il n'a pas réussi à convaincre le gouvernement.
Il faudra attendre la fin du 19e siècle avec la fameuse convention de Berne pour qu'on commence d'établir qu'a un vrai système de droits d'auteur internationaux.
International, mais aujourd'hui le droit d'auteur est pour la vie de l'auteur plus 70 ans. Ça veut dire que presque toute la littérature du 20e siècle n'est pas dans le domaine public. Et je trouve que c'est exagéré. Le droit d'auteur est dure trop longtemps, à mon avis. Je suis auteur, j'admire, j'aime beaucoup les éditeurs, mais 70 ans après la mort de l'auteur, c'est quand même un siècle en général, et cela déprive le public d'accès à presque toute la littérature du 20e siècle. C'est dommage.
Ça ne les prive pas forcément, simplement on leur demande de payer les auteurs. Mais c'est un grand débat que nous laisserons ouvert, si vous voulez bien, un débat qui a opposé, par exemple, en France, trois familles d'esprit. Ceux qui trouvaient, comme Louis Blanc, le socialiste, que c'était déjà une gloire que d'avoir fait naître une œuvre et qu'on n'avait pas besoin d'être payé après l'avoir publié. Ceux qui pensaient que ça devait être comme un immeuble, on devait le garder éternellement, transmis de père en fils et de fils en petit-fils. Et puis ceux qui ont, avec Valras et d'autres, juger qu'on pouvait avoir une date intermédiaire. Vous voulez bien que nous laissions cette question ouverte après avoir marqué que votre 18e siècle posait très directement la question des droits d'auteur, puisqu'on était payé une seule fois. Alors avant de nous quitter, Robert Danton, après avoir évoqué le monde du livre et des libraires à la fin de l'Ancien Régime, il faut que nous posions une dernière question qui peut aussi avoir son actualité quand on réfléchit à l'influence des livres, des écrits. Oui. Est-ce que ceux-ci ont constitué une cause principale de la Révolution française? Il y a au moins un siècle qu'on en discute.
C'est vrai. Depuis un certain article de Daniel Mornay de 1910, un article célèbre, où Mornay, après avoir étudié 500 catalogues imprimés de bibliothèques privées, s'est posé la question suivante. Combien d'exemplaires du contrat social de Rousseau existait-il dans les bibliothèques privées? Réponse, un exemplaire, un seul.
L'erreur était de porter l'accent sur ces catalogues et ne pas tenir compte, comme vous, de toute l'information qu'on peut retirer d'une société comme celle de Neuchâtel.
Exactement. Et d'ailleurs, Mornay ne savait pas que les catalogues imprimés devaient passer par la censure. Donc, le censeur avait éliminé les contrats sociaux, sauf exception. Alors, pour cerner la demande, me semble-t-il, il faut aller étudier les commandes des libraires. Mais, ceci dit, Moi, je ne vois pas une ligne de causalité. Il n'y a pas de causalité linéaire qui mène depuis la production du livre, à l'achat du livre, à la lecture du livre, à la formation de l'opinion publique et finalement à l'action. C'est trop simple. Je vois plutôt la création d'une atmosphère compliquée, il est vrai, mais où les gens étaient prêts à penser un autre monde. Si ils lisent l'an 2440 de Mercier à côté du tableau de Paris de Mercier, ils voyaient le contraste entre une société utopique régie par la volonté générale d'un côté et de l'autre la misère du Paris actuel. Donc, je pense que cela a créé une atmosphère, un climat où l'action était pensable.
Donc, vous nous dites une ambiance, assurément, mais pas de téléologie, ce qui est toujours dangereux en histoire. Ceci devait conduire forcément à cela. Merci beaucoup, Robert Danton. Merci. Le livre magnifique que vous proposez et qui a fondé cette émission s'appelle Un tour de France littéraire, le monde du livre à la veille de la Révolution, paru chez Gallimard, tout récemment, dans la collection des essais NRF, et qui est traduit, très bien traduit, il faut de temps en temps rendre hommage au traducteur, par Jean-François Senet.
Mon traducteur est un homme génial, c'est un poète, c'est un ancien professeur dévoué à la littérature et qui savait me corriger. Il a trouvé pas mal d'erreurs, etc., ou de répétitions. Je lui dois beaucoup.
Si c'est vous qui le dites, hommage à Jean-François Senet. On pourrait citer beaucoup des autres livres que vous nous avez donnés sur ce XVIIIe siècle. Je voudrais au moins rendre hommage à celui qui est consacré à la censure. Très beau sujet. Essai d'histoire comparée, également dans la même collection des essais NRF paru en 2014. Vous avez donné en janvier 18, il y a juste un an, un très bel entretien sur le même sujet à la revue L'Histoire. Et puis, vous nous dites que cette semaine, on peut se procurer dans Charlie Hebdo, Robert Danton dans Charlie Hebdo, on ne s'y attendait pas forcément, dans Charlie Hebdo, un article sur les Lumières et un autre dans le New York Times sur Voltaire. Vous avez commencé pendant peu de temps votre histoire intellectuelle en étant journaliste au New York Times.
C'est vrai, j'apprécie beaucoup le journalisme, j'ai un frère journaliste, etc., mais comme bien d'autres personnes, je suis très inquiet à cause de la situation actuelle. Donc je dis dans le New York Times, à l'époque de Trump, il nous faut un Voltaire.
Voilà qui résume les choses avec vigueur. Je ne voudrais pas clore cette émission sans évoquer un livre qui vient de paraître, un livre de Jacques Gantier qui s'appelle « Lire sous l'occupation » paru à CNRS Éditions. Et qui pose beaucoup des questions que vous vous êtes posées, Robert Danton, pour une autre période. C'est un livre très riche qui fait revivre non seulement le monde de la librairie, mais les comportements des lecteurs, qu'il est plus facile probablement de saisir pour cette période récente que pour votre XVIIIe siècle. Robert Danton, merci. Vous pourrez, vous le savez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, trouver une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés, documents parlés et chansons. Et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, à propos du nationalisme italien en particulier, je ferai réémerger D'Annunzio, très célèbre en son temps. D'Annunzio, un nationalisme italien, début du XXe siècle. Et je recevrai Maurizio Serra, l'ambassadeur historien Maurizio Serra. Lundi matin, vous retrouverez à 9h, comme vous en avez l'habitude, heureuse habitude, la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin, qui consacrera sa semaine au sujet suivant, 1919-2019, le traité de Versailles en 100 ans, une histoire de la paix de 1919 en 4 volets, une paix encore controversée comme au premier jour. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Dalia, à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Véronique Jolivet. Et dans quelques instants, Christine Ockrent pour Affaires étrangères.